Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne, 20h01. Bonne soirée, merci d'être là. Merci de nous écouter ou de nous regarder chaque soir. On débriefe l'actu tech pendant encore 30 minutes en ce mardi avec André de Losgul-Pietri qui est toujours là, Clément David et Frédéric Simotel. Après Anthropique, après les rumeurs concernant les futures lunettes d'Apple, je vous invite maintenant à évoquer le prochain projet de Meta qui serait de sortir, écoutez bien, un collier connecté. Selon la presse américaine, Mark Zuckerberg travaillerait donc sur un pendentif couplé à une intelligence artificielle pour faire quoi exactement? Les explications d'Anthony Morel.
Ce sera un petit accessoire qu'on pourrait porter soit autour du cou, soit sous forme de pins, et qui serait doté de capteurs, de micros, peut-être même, dit-on, d'une caméra, et qui serait capable d'écouter et d'analyser tout ce qui se passe autour de moi au long de la journée avec une IA qui pourrait m'assister, répondre à des questions que je lui pose. Alors, on n'a pas beaucoup plus d'informations parce que c'est une note interne de chez Meta qui a fuité dans la presse américaine, mais ça semble assez cohérent parce que Meta a racheté il y a quelques mois une entreprise, une start-up qui s'appelle Limitless, et qui est spécialisé là-dedans. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent à la télé, les images que l'on voit, ce sont des images de ce petit pendentif Limitless. On n'a pas encore celle de Meta, évidemment. Mais en gros, les petites micros embarqués, ce qu'ils vont permettre de faire, c'est vous sortez d'une réunion. Ah bah oui, alors cette réunion, qu'est-ce qu'il a dit Jean-Pierre? Déjà, je me souviens plus. Vous allez avoir un résumé. Ça peut être, ah mais je me souviens plus. J'ai croisé un gars là, c'était sur ce grand salon il y a 3 mois. C'était un directeur marketing d'une boîte qui faisait de l'intelligence artificielle. Et l'IA va vous retrouver la conversation. Si on imagine qu'il y a une caméra, ce dont on n'est pas sûr. Ça pourrait même aller jusqu'à le collier qui vous dit « Ah là, t'as oublié tes clés à côté du canapé, tu ferais mieux d'aller les récupérer, sinon tu seras embêté. »
Mais il n'y a pas de caméra.
Dans la journée. Pour l'instant, on n'est pas sûr en fait. On sait qu'il y aura des micros et des capteurs, et il est possible qu'il y ait une caméra. Encore une fois, on n'a pas encore toutes les informations. Ce qui est sûr et ce qui est intéressant, c'est la tendance derrière. C'est mouchard partout tout le temps, mais c'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Vous avez Apple, il y a eu des rumeurs sur le fait qu'ils étaient en train de travailler sur un collier ou un pendentif. On sait qu'OpenAI qui travaille sur une galaxie d'objets IA avec Johnny Ive, notamment l'ancien directeur du design chez Apple, travaille aussi sur un pendentif parmi plein d'autres objets. Donc c'est un peu le nouveau form factor qui embarquerait l'IA sur lesquels tous les géants de la tech travaillent et qu'ils vont essayer de nous vendre à tout crin.
Voilà, Mark Zuckerberg, on ne l'arrête pas. Il a, j'imagine, un projet toutes les minutes. Ça coûte quelques dizaines de milliards à chaque fois, d'où quand même les frissons de son board, hein, qui n'est pas toujours d'accord avec, on va dire, ses décisions. Mais en tous les cas, il y aurait, alors pour l'instant tout ça est confidentiel, mais on se murmure que Meta pourrait sortir cette espèce de collier, de pendentif, qui
parce que je pense qu'on peut le clipper sur sa veste. Enfin voilà.
Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus.
Comme ta Légion d'honneur.
Exactement. Qui arrive.
C'est sous peu, là.
Sa médaille d'être en 30 boîtes.
Ouais.
Eh oui, monsieur.
Il y a une médaille?
Mais évidemment.
Okay. Et pour les 3 ans ou 4 ans de Tech & Co, c'est possible, une petite médaille, un truc?
Alors là, c'est beaucoup. En chocolat, pour commencer. Alors non, plus sérieusement, ce petit pendentif, la question qui se pose, mais qui s'est posée déjà avec les lunettes, finalement, c'est que ça récolte des données, et ce pendentif...
C'est ce qui intéresse Zuckerberg. Hein,
c'est
tellement le matériel en lui-même, hein, c'est récupérer des données...
C'est récupérer toute l'information, et améliorer toutes ces IA, évidemment, les entraîner pour qu'elles puissent avoir un maximum de data, hein, c'est ça, André, j'imagine.
Oui, alors... Quelque part,
je suis pas
un admirateur de Zuckerberg, mais point numéro un, dans ce monde de grands paris calculés, celui qui essaye pas, il est sûr de perdre. Donc, on ne va que réussir si on fait ce genre de paris, et aujourd'hui, effectivement, les paris, c'est à coup de milliards. La deuxième chose, c'est qu'il s'adresse quand même aujourd'hui à un marché qui est une espèce de marché clandestin. Tout le monde aujourd'hui, dans les réunions, que ça soit dans les réunions vidéo et autres, met en route son petit assistant IA pour faire des notes de réunion. On va tous à des conférences où on se dit, mais finalement, on a entendu énormément de choses. Quelle est la substantifique moelle? Et alors, si en plus, ça peut être personnalisé, donc quelque part, je pense qu'il est juste en train de finalement de rendre transparent ce qui aujourd'hui est en train d'être fait de manière un petit peu au noir. Après, l'enjeu sur la vie privée, mais c'est la même chose sur les lunettes. C'est-à-dire aujourd'hui, on enterre la vie privée. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, les avions depuis 2-3 mois maintenant, première annonce du steward ou de l'hôtesse de l'air, c'est ne vous n'êtes pas autorisé à prendre des vidéos ou des photos, sauf si on vous y autorise. Ça, c'est clairement destiné aux gens qui ont des lunettes, des personnels de bord, en plus. Et voilà, absolument. Donc, je pense que c'est ce genre de pari qu'est en train de faire Zuckerberg. Évidemment, l'enjeu pour lui, c'est de récolter des datas, de savoir comment ces datas sont personnalisées en fonction des utilisateurs. Donc oui, alors c'est cohérent avec toute la stratégie de Meta qui est finalement de personnaliser un maximum son audience.
Alors pourquoi on parle de ça ? Parce que en fait, Meta avait acheté assez discrètement en décembre dernier une startup qui s'appelle Limitless et qui avait conçu une espèce d'appareil qui prenait la forme d'un petit microphone Bluetooth et qui pouvait être porté autour du cou, fixé sur un vêtement et qui enregistrait nos échanges vocaux pour après les intégrer dans une IA. Et je sais pas, moi par exemple, à la fin de cette émission, j'ai ce petit micro, je dis fais-moi un résumé des quatre points forts de Tech & Co. Il y a l'IA réécoute tout ce qu'on a dit et nous sort les points hyper importants.
C'est ce que fait Claude, le petit boîtier Claude.
C'est Claude, c'est exactement ça. Voilà.
Oui, mais
donc on peut imaginer qu'après Limitless, donc cette startup achetée par Meta, Meta veut passer à la vitesse supérieure. Clément, je te vois sourire.
Non, mais oui, mais en fait, tout est vrai, tout ce qu'on a dit, etc. C'est la pire boîte pour le faire. Meta, avec le track record qu'ils ont de, tu vois, Cambridge Analytica, tout ce qu'ils font avec les données, ça, moi, je suis allé au congrès américain, je leur ai dit, vous rachetez pas cette boîte, vous n'allez pas faire ça. En fait, ils peuvent faire le meilleur produit du monde. Ils peuvent concevoir
un truc génial. Mais ils ont quelques casseroles, quoi, c'est ça le problème.
Jamais de la vie, je leur confie quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un peu Gargamel qui ouvre un village vacances pour les schtroumpfs. Tu vois, qui dit, allez les mecs.
Allez, vas-y.
Ok, il y a un passif. Mais mon village vacances, c'est génial. Mais je vais pas y aller. Et tant pis, tu vois, j'irai en Bretagne et je déteste la Bretagne et j'irai plutôt qu'au village Gargamel. Vacances de Gargamel, c'est sûr.
Donc, t'exagères avec la Bretagne, c'est sympa quand même. Non,
après, je suis supporter du Stade Malherbe de Caen, mais c'était une autre discussion.
Oui, explique.
On est quand même loin de la Bretagne.
Ah, c'est vrai que t'es pour Brest. Attention. Bref, non, le truc c'est.
Je vois bien ces petites flèches empoisonnées.
Oui, c'est vrai.
Mais mon pendentif enregistre tout et on verra le jour.
Nous, avec André, du moment qu'on parle pas de la Corse, tout va bien, on est sage.
Non, mais c'est. Enfin, on en revient un peu à la discussion d'avant. Je pense que là où t'as raison, c'est que là où la culture d'Apple est d'attendre l'usage. Meta, ils ont la culture de tenter des trucs, on jette le mur contre le mur, on voit ce qui colle. Et c'est un peu, je le dis tout le temps, c'est ce que Riolo disait sur Neymar, il dit tu recrutes Neymar, c'est pour qu'il tente des trucs. Oui, parfois il rate ses dribbles, mais en fait c'est Neymar, tu veux qu'il tente des choses.
Bien sûr.
Là, c'est un peu pareil, il s'est planté sur le métaverse, ça a mis sa boîte en risque à zéro. C'est pas grave, il tente de nouveaux paris. Moi, je ne le suivrai pas sur celui-là, mais pourquoi pas, tu vois.
Mais alors, juste après, pour donner la parole à Fred et à André, admettons que tu aies quelqu'un en face de toi qui est ce petit pendentif.
Mm-hmm. Et bien, la question, c'est l'autre.
Voilà, parce que toi, tu ne le portes pas parce que tu sais que c'est Meta et tu te dis jamais je rentrerai là-dedans. Mais tu vas être un acteur de ce produit-là, forcément. Mm-hmm. Parce que, admettons que ça marche, tu vas rencontrer des gens qui l'auront.
Et surtout que tu
Comment tu réagirais ?
Tu le vois
déjà. C'est ça la question.
Moi, j'ai fait des rendez-vous avec des gens dans le cadre de mon entreprise ces derniers temps. Et au bout d'un moment, tu dis, ça m'est arrivé deux fois ces dernières semaines, où il y a une barre verte, etc. Au bout d'un moment, tu leur dis, mais attendez, cette barre qui clignote un peu là. Le mec dit, bah, j'enregistre la réunion qu'on a en train d'avoir dans la salle. C'est pas une visio, hein, c'est. Tu leur dis, bah. Vous êtes prié de demander avant, tu vois. Et en plus, les gens n'ont pas cette notion aujourd'hui.
Ouais. Moi, mais le truc, c'est. Je dis à chaque fois quand.
Ouais, mais tout le monde n'a pas cette correction. Encore plus si ça devient de la vie quotidienne où tu ne vas pas le dire 80 fois par jour. Et je peux te dire que moi, ce qui va me faire marrer, c'est les négociations côté RGPD. RGPD n'est absolument pas conçu aujourd'hui pour encaisser ce genre de système. Donc, ça va être des nouveaux usages, ça va être des nouvelles négociations avec l'UE, etc. À mon avis, ça va être sans fin.
Mais je trouve ça, quand je disais qu'il met de la transparence, que ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis fasciné de voir que depuis 3-6 mois, personne ne me pose la question quand on démarre un Teams, un Zoom ou un Google
Meet. Est-ce que t'es OK pour qu'on enregistre?
Est-ce que t'es OK? Et il y a maintenant systématiquement le petit compagnon IA qui enregistre.
Ça se faisait avant.
Après, cela dit, tu le vois, hein. Quand tu participes à la réunion, tu vois qu'il y a un record.
Mais c'est presque devenu aujourd'hui une étiquette de le faire et tu te sens être le mauvais coucheur. Alors, moi je le fais, finalement, c'est quand même ultra pratique. Donc je pense qu'aujourd'hui l'usage, le pain point comme on dit, il est tellement fort que ça va dérouler. Donc moi je pense que ça va avoir un succès incroyable. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais avec la vie privée. C'est que le fait que Meta fasse ça soit à la fois pas une surprise, mais... Notre vie privée, elle est, mm-hmm. elle est
mais sur Teams, ça a changé en quelques mois. Il y a quelques mois, on te disait, ça vous enregistre pas si j'enregistre et tout ça. Maintenant, on dit plus rien.
Non, on dit plus rien.
Ça dépend des gens. Hein. Certains le disent, mais
moi, j'ai rarement entendu. Mais... On m'a rarement posé la question. Et ce qui est assez étonnant, moi, de temps en temps,
ça vous dérange pas si on n'enregistre pas justement.
Ouais, c'est ça.
Ah bon, vous enregistrez.
Mais là, aujourd'hui, je pense que
qui va faire les notes.
Meta, ils sont obligés d'y aller. Ils sont obligés quand on a un OpenAI qui est en train de dire, je réfléchis avec Johnny Ive. Quand on a un Apple, on va pas revenir sur l'histoire des lunettes. Quand tu as un Google qui a plein de données contextuelles, là, quand tu réfléchis à Google, ils ont Android, ils ont Maps, ils ont Gmail, ils ont qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Ils ont Gemini maintenant. Donc ils sont hyper forts dans cette partie-là. Il leur manque juste les lunettes. Ils étaient un peu ratés, mais ils réussiront à travailler. Donc ils sont obligés d'y aller. Meta, ils ont pour eux, alors ils ont contre eux effectivement l'histoire de la vie privée, parce qu'alors là, ils traînent une réputation. Faut voir si parfois aux États-Unis on oublie vite, hein, mais nous un peu moins, mais aux États-Unis ils oublient vite. Et puis ils savent aussi la partie le mélange hardware IA, ils sont pas mauvais hein, pour mixer tout ça. Donc ils peuvent avoir cet atout, mais ils sont obligés d'y aller. Et tout ça, c'est ils veulent récupérer. Pour moi, c'est on parlait des données personnelles, mais c'est les données contextuelles. Quoi. C'est vraiment pouvoir te dire avoir. Personnaliser, oui, mais personnaliser dans un contexte, t'es au restaurant, voilà, on va encore plus te personnaliser.
LinkedIn te permettait déjà de voir le graphe social de tes connexions. Là, on va pouvoir voir de manière beaucoup plus subtile tes interactions avec qui tu t'entends bien, avec qui ça se passe bien, dans un contexte professionnel, c'est hyper puissant potentiellement et inquiétant.
Qui te dit que tu as ce passe-pendentif dans un contexte personnel, privé? Oui, tu peux l'avoir aussi, tu l'oublies par exemple, tu vois, enfin, je sais pas trop comment ça va marcher ce truc-là. Tu es dans ta voiture, tu passes des calls, perso, si tu as encore ce pendentif, il va tout enregistrer en fait.
Il y a juste une précision sur les entreprises. Elles vont s'approprier ça à une vitesse folle. T'as beaucoup de start-up françaises très connues, que je vais pas citer, qui, des nouvelles plutôt vagues IA, etc., qui disent en interne, on vous prévient quand vous êtes sur Slack, l'outil de messagerie interne, tout est enregistré, analysé par les bots, etc., etc., l'IA, pour pouvoir être plus efficace, pour faire remonter la donnée. Donc aucune de votre conversation ne sera privée dans le cadre de l'entreprise. Par ailleurs, on vous demande d'avoir le moins d'interactions hors Slack possible. Éviter les réunions, éviter les discussions informelles, etc., etc.
Les entreprises pour conserver toutes les données en fait.
Exactement. Mais dans ce monde-là, où ça va devenir des politiques d'entreprise assumées au même titre qu'avant, on disait on fait pas de mail parce que ça fait perdre du temps. Là, on dira n'ayez pas de conversation informelle. Tout doit pouvoir être enregistré dans le but d'être le plus efficace avec les agents possibles, etc. Assez terrifiant quand même. Oui. Ça va devenir des politiques.
Juste un dernier mot, je trouve que là, on a peut-être un signal aussi dans la Silicon Valley que les LLM, ça devient, enfin les modèles, ça devient une commodité et que le prochain marché, le prochain enjeu, c'est peut-être les capteurs, tu vois, qui est un peu.
C'est le monde réel, c'est notre ami.
Tu vois, tu vois. Pardon ?
C'est le monde.
Et je pense que là aussi, dans la Silicon Valley, on est. Alors c'est marrant parce que ça rejoint tous les sujets que l'on a entre entreprises qui entrent en bourse, OpenAI,
et tout. Revient sur mon sujet de sens. Hein. On a l'intelligence et on va avoir de plus en plus les connexions avec nos cinq sens qui vont permettre en fait d'avoir ces interactions. Et c'est ce qui nous a permis en fait de progresser extrêmement vite parce que très vite on avait le feedback loop, la réaction sur nos tentatives.
Et c'est celui qui captera le mieux les données contextuelles.
Le pape a de la matière première pour encore 2-3 ans cycliques.
Ouais, c'est clair.
Mais ton point sur la réglementation est très puissant parce que ça me fait penser au fait, je l'ai cité plusieurs fois sur ce plateau, que quand en 2015, je crois, Facebook rachetait WhatsApp, la Commission européenne avait dit aucun problème, etc. Il n'y a pas de concurrent. On n'est pas sur le même marché que Facebook Messenger. Ils avaient écrit ça noir sur blanc, page 116 des attendus du truc. Donc, on voit à quel point les régulateurs n'avaient rien compris. Là, en fait, ça montre encore plus l'importance non pas d'avoir de la réglementation extrêmement détaillée, mais des régulateurs qui vont pouvoir en temps réel comprendre toutes les implications stratégiques, sociologiques, éthiques de ça. Ouais. C'est ça qu'il nous faut. C'est pas une lecture bête et juridique, mais il nous faut une lecture intelligente et sociologique de ce genre d'outils.
C'est une petite révolution, en fait, tous ces objets connectés qui ont des micros, qui ont des caméras. On parlait des lunettes tout à l'heure, même combat. Hein. Tiens, puisqu'on parle de lunettes, tout à l'heure, je recevrai un porte-parole de Samsung, parce que Samsung annonce avec Google, une paire de lunettes connectées. On la découvrira tout à l'heure donc avec Philippe Bloch qui sera
l'aspect santé, sécurité de tous ces objets aussi derrière. Il y a la sécurité des données, mais comment ça va nous aider dans la vie, dans notre santé, notre bien sécurité, sûr. Être localisé s'il y a un problème.
On revient en Europe avec une décision qui devrait être communiquée demain et qui est très attendue, notamment par les opérateurs satellites américains. Parce que, en fait, l'Europe souhaiterait fermer son ciel à Starlink et Amazon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de cette information, parce que, et là ça va faire plaisir à André qui a un grand sourire avec cette info, c'est tombé en fin de semaine et je voulais qu'on en parle ce soir parce que finalement aujourd'hui, le satellite, et notamment les satellites basse orbite, c'est un peu le Far West dans les ondes. Tout le monde lance ce qu'il veut, c'est le premier qui est arrivé qui bénéficie en fait du spectre de fréquence.
Oui, en plus quand ils sont, quand tu dis tout le monde fait ce qu'il veut... Dans l'espace, ils font aussi ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en général, oui. la déontologie spatiale veut que quand tu es arrivé le premier, c'est toi qui as le rayon, on va dire.
Oui, parce que t'es arrivé le premier.
Parce que t'es arrivé le premier.
Et les autres doivent s'adapter.
Et quand les autres, s'il y a un autre qui passe en dessous, il doit s'adapter, il doit éteindre son signal, et puis hop, ensuite, une fois qu'il est plus dans le cône, là, il peut sortir. Et Starlink et tout ça.
Ils s'en foutent.
Ils s'en fichent complètement. Ils n'éteignent jamais leur signal.
Et donc, l'Union européenne va peut-être ou sans doute demain annoncer que tout ça c'est terminé et que 2/3 des fréquences qui viennent du ciel seraient réservées à des projets européens. Ouais. Ça veut dire qu'il ne resterait plus 1/3 du spectre des fréquences en Europe réservé à Starlink et Léo. Et alors là, je vous dis pas, c'est la pagaille la plus totale, parce que effectivement, Elon Musk ne peut pas entendre ce type de choses. C'est pas possible. Enfin, pour lui, c'est inenvisageable.
Oui, et pour bien préciser, c'est 1/3 pour des fréquences et des usages gouvernementaux, etc. Et puis pour Iris Carré, 1/3 pour des opérateurs européens émergents. Et donc, comme tu l'as dit, le dernier tiers
pour...
Allez-y, candidatez, mais
pour tout le monde.
Voilà, pour tout le monde.
Oui.
André, et après.
Enfin, on a envie de dire enfin l'Europe qui, c'est pas la poupée qui sait dire non, c'est l'Europe qui sait dire non. Et surtout en ce moment, il faut bien voir la pression qu'il y a sur la Commission européenne et sur toutes les institutions européennes, où vous avez un camp de ceux qui disent oulala, il faut surtout faire plaisir aux Américains qu'on fasse l'accord sur les droits de douane, où en fait, on a 15% et eux ont rien, donc un accord complètement léonin qui a été. Et certains qui disent non, au contraire, pour se faire respecter, il faut. Et là, pour la première fois, on prend le risque d'une confrontation, et ça fait quand même maintenant 2 ans, enfin depuis Trump 2, qu'on n'a pas osé le faire. Donc ça, c'est formidable. Après, il faut quand même un tout petit peu modérer la bande dont on parle, c'est celle de 2 GHz. Oui. C'est celle qui est idéale, notamment pour les connexions direct-to-device.
Oui.
Ce, en fait,
et notamment le téléphone.
Où les constellations vont devenir des concurrents directs
des opérateurs
télécoms. Donc là, en fait, on n'a pas de constellation nous, mais on a quand même encore beaucoup d'opérateurs télécoms et qui sont des entreprises puissantes en Europe. Alors beaucoup trop fragmentées, etc. Mais donc en fait, là, on réagit parce que le cœur, on dirait en France dans une autre doctrine, nos intérêts vitaux sont menacés. Donc heureusement qu'on fait ça. Je crois que par contre il va y avoir une bataille de lobbying absolument incroyable. Donc il faut rester extrêmement prudent. Est-ce que véritablement on aura le courage de faire de garder ces 2/3, 1/3 gouvernement, 1/3 acteur privé européen réellement réservé?
Oui, parce qu'on imagine qu'ils vont attaquer juridiquement.
Évidemment. Voilà, évidemment. Faire,
mais... Oui, parce qu'il y a déjà le Washington qui dit attention aux représailles.
En fait, y a des représailles dès qu'on se lève le matin. Tu prends un café représailles, tu machins représailles. À un moment, je veux dire, c'est... Puis Washington, on va voir ce qui se passe avec les midterms, mais Washington, dans les 2-3 ans qui viennent, ça sera pas forcément la même chose, tu vois.
Ouais.
Mais il y a un truc qui est...
Il y a en ce moment quand même peur sur la ville à Bruxelles. Aujourd'hui, Bruxelles et les capitales européennes ne sont pas très courageuses.
Je pense que même si tu as l'autre bord qui repasse aux États-Unis, il y a quand même
les montées
d'un cran.
Ouais. On redescendra pas comme à l'ère Joe Biden, je pense.
Ouais, puis même Biden, Obama, il commençait déjà.
Biden avait la même stratégie très agressive des Européens, mais beaucoup plus polie. Il ne nous insultait pas tout le matin.
Et puis, le coup des droits de douane, c'est quand même arrivé dans un monde où il n'y a aucune négociation possible. Enfin, bon, c'était quand même un parallèle, un paradigme assez étrange. Mais en tout cas, le truc, c'est, je suis assez d'accord avec toi, mais encore heureux, tu vois, qu'il nous reste pas grand chose. Il nous reste les ondes qu'on a le droit d'utiliser sur notre sol ou pas, quelques opérateurs téléphoniques et machin. On va peut-être essayer de protéger ça. Et pour une fois, si le légal pouvait se mettre au service de la protection de la souveraineté plutôt qu'au service de casser les pieds à tout le monde, ce serait pas mal. De l'autre côté, légaliste européen. Ensuite, il y a une question qui était intéressante qui était posée, qui était de dire oui, mais vous allez retarder sur les zones blanches potentiellement l'arrivée de Starlink. Et donc, ça va handicaper pour un certain nombre de gens l'accès aux télécommunications parce que c'était la solution pour que les zones blanches soient couvertes, etc., etc. Oui, mais en fait, si on fait pas ça, à un moment, Iris 2, enfin Iris Carré, verra jamais le jour. Tu vois, c'est-à-dire que si manifestement on est en retard, bah, quand tu es en retard, il faut bien que tu prépares un peu le terrain pour, comment dire, limiter la casse le temps que Iris Carré puisse se pointer. Et c'est un peu ce qu'avait fait la Chine, on en parlait avec Huawei, où la Chine avait dit, bon, bah, puisque on s'est fait sortir, on n'a plus accès à Android et qu'il faut que Huawei ait son propre OS, merci, le temps qu'ils sortent Harmony, bah, on va leur arranger le marché intérieur pour qu'ils puissent encaisser le changement de paradigme et puis qu'ils puissent revenir 2 ou 3 ans plus tard. Donc à un moment, oui, on va prendre du retard sur la couverture des zones blanches, mais si ça peut permettre à un projet européen d'arriver, ça sera pas mal. Moi, je vous le dis, si on parle de comment ça va se passer, qui va craquer en premier, je vous le dis, si ça craque, ça sera du côté de l'Allemagne, comme d'habitude.
Non, puis il y a cette partie souveraineté aussi. On a vu ce que les Américains ont fait quand ils ont coupé le signal avec Starlink et tout ça. Donc aujourd'hui, Européens, on a enfin compris que...
On a compris. Je suis partagé parce que je pense qu'en fait, on devrait en faire un non-événement. Tu as tout à fait raison. C'est pas du tout un acte de bravoure. On est juste en train de faire de la politique industrielle intelligente. Donc en fait, en faire trop voudrait presque dire que soudain les Européens presque s'excuseraient d'être intelligents. Ça c'est une chose. Là où je suis pas tout à fait d'accord, j'étais en Allemagne là les 2 derniers jours, c'est que malheureusement tu parles d'Iris Carré, mais à nouveau on est en train de faire une erreur complète. Alors c'est assez surprenant parce que j'étais à un sommet technologique, je fais une toute petite digression. En France, on a parlé de Choose France. Je rappelle quand même que c'est Choose France. Je suis très fier de mon pays. Et ben les Allemands, ils avaient à peu près la même chose, c'était Choose Allemagne. Mmh. Donc on est en train de refaire la même erreur et sur les constellations.
Bataille d'ego et on a du mal à. Iris
Carré est vue en Allemagne comme une constellation française.
Ah oui.
Et les Allemands sont en train d'investir dans ce qu'ils appellent le réseau numéro 4 de constellation pour la Bundeswehr, entièrement allemand.
Donc c'est un réseau qui sera concurrent d'Iris Carré. Oui. C'est ça.
Donc, on
s'intéressera à Iris Carré pendant Vivatech. On aura un porte-parole d'Iris Carré qui sera sur le plateau.
Non, mais c'est hyper important parce que l'erreur qu'on a faite,
c'est en Paris Air Forum, 15 juin.
Oui, voilà, Paris Air Forum.
Iris Carré, l'erreur qu'on a faite, je pense, c'est que ce n'est pas assez disruptif. C'est-à-dire, on a voulu faire un concurrent à Starlink. Ce qu'il faut, c'est inventer le coup d'après. Et donc, les Allemands se sont engouffrés dans la brèche en disant, oui, ben attendez, si c'est juste pour faire Starlink, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de mettre 10 milliards. Ce qui est un argument que je pense qu'on peut entendre. Ah, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et en plus, avec notre capacité d'exécution qui est pas très très forte.
On n'a pas beaucoup parlé d'Amazon ce soir. J'aimerais qu'on termine là-dessus, et notamment les déboires de Jeff Bezos. Alors, je vous rassure, les déboires de Jeff Bezos...
Il est ruiné.
C'est pas...
Il n'est pas ruiné.
Il a pas appelé son banquier pour dire qu'il était à découvert ou négocier un petit découvert. Non, c'est pas ça. Mais malgré tout, vous le savez, dans cette course à l'espace, là, Jeff Bezos est un peu dans la sauce, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et oui. Pourquoi tu ris?
Mais j'ai rien dit, moi j'écoute ça.
Exactement. Je sais pas si vous avez...
C'est plus jeune que lui encore.
Qui oui, c'est ça. Et parce que derrière moi, et je sais pas si vous avez vu ça à la télé, mais il y a eu donc un lancement de...
New Glenn.
De New Glenn, qui est la grosse fusée Blue Origin de Jeff Bezos et d'Amazon, et qui n'a même pas réussi à décoller en fait. Au démarrage, elle a complètement explosé en faisant une explosion, mais qui a... endommager en fait tout aux alentours et notamment le pas de tir. Ce qui fait que, alors c'est une très mauvaise nouvelle, un pour Jeff Bezos qui n'est pas véritablement prêt à lancer ses milliers de satellites Léo qu'il avait prévu de lancer. Alors heureusement il y a Arianespace, heureusement il y a d'autres lanceurs, donc c'est plutôt bien pour nous, mais ça ralentit en fait le déploiement de sa constellation. Et c'est pas bien aussi pour la NASA, parce que la NASA comptait beaucoup sur Jeff Bezos et sur Blue Origin pour être un petit peu faire un peu l'équilibre avec Elon Musk et Starship et SpaceX.
C'est un élément cœur du projet Artemis, pour le coup, qui est de retourner sur la Lune. Normalement, on devait premier vol habiter 2027.
Ouais.
Ils savent que ça y est, c'est foutu.
Et là, ils doivent regarder le calendrier en se disant...
Ouais. Ils regardent les Chinois, surtout. Aujourd'hui, quand tu lis les experts, il y en a beaucoup qui te disent « Mais attendez, si les Américains pensent y être avant les Chinois, ils rêvent. » Et le problème, c'est que ce projet Artemis... Plus les échecs passent, plus le temps passe, plus il prend du retard, plus le Congrès américain commence à demander des comptes et demander si ça sert vraiment à quelque chose. Après, élément intéressant, on sous-estime, je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai lu encore une interview là d'un mec qui disait, on sous-estime grandement la complexité de cette rampe de lancement. et qu'en fait la vraie catastrophe en effet elle est là. Et il ressortait une citation de au moment du lancement du premier Falcon par Elon Musk qui disait: moi le seul truc que j'attends et que j'espère, c'est ce serait une réussite si ça abîme pas la rampe de lancement. C'est tout ce que je demande.
Oui, parce que c'est tellement puissant, ouais, en fait.
Super complexe.
Ouais, ouais, ouais. Et lui, il en a plusieurs. Alors ouais, que Blue Origin, comme tu disais, ils seront obligés de passer par les Européens. Mais ils n'avaient qu'un seul pas de tir. Hein. Donc là, ils ont escalé.
Ouais, et ça va prendre des mois pour tout réparer, bien sûr.
La grande catastrophe de Starship, c'était il y a un an et demi, c'est quand ils avaient également détruit leur pas de tir. Parce qu'en fait, un pas de tir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un système en fait, de déversement immédiat de quantité absolument colossale d'eau
pour éteindre, justement, et pour refroidir, en fait.
Effectivement, très complexe, très coûteux. C'est de l'infrastructure lourde à construire. Donc, c'est surtout ça le pépin industriel.
Là, visiblement, ça n'a pas bien marché.
Oui. Non, mais ça rappelle qu'on est dans un monde encore. On a l'impression souvent, quand on voit tous les lancements, SpaceX, les satellites et tout ça. Alors, il faut savoir que c'était des tests qui étaient menés. Il n'y avait pas les 200 satellites. Ils devaient emmener 200 petits satellites.
Non, il n'y avait pas de satellites, évidemment. Mais je pense qu'ils imaginaient quand même que la fusée allait décoller. Oui,
mais là, je trouve que là, ça nous rappelle aussi que cette industrie est encore pas naissante, mais voilà, qui a encore pas mal de soucis. On a l'impression parfois, quand on voit les succès de Ariane Espace, quand on voit le SpaceX qui n'arrête pas d'en lancer partout, que ça y est, on va commencer à rentrer dans une routine. Non, on voit là que il y a encore des
Tu mesures l'avance de SpaceX. C'est-à-dire que c'est pas uniquement ils ont lancé les satellites plus tôt, donc en fait ils en ont 10 000 de plus, mais ils ont un savoir-faire technologique qui est encore à des années-lumière de ce qu'Amazon peut faire.
Je rappelle que l'année dernière, l'Europe a lancé 0,2% du tonnage envoyé.
Ça va être la conclusion de ce Tech & Co, en tout cas de ce débrief. C'est dur, ce genre de choses.
Ah si, il faut le faire, parce que si on continue à penser qu'on est à la hauteur, là, comme j'ai entendu à Choose France, là où on était très fiers sur Thomas Pesquet, etc. Non, moi je pense qu'il faut absolument que nos astronautes soient lancés avec des fusées européennes et que ça doit être un projet moonshot, mais qui doit être à la hauteur.
La navette Hermès.
C'est inacceptable qu'on continue à avoir une politique française de l'espace, une politique allemande de l'espace, et qu'on laisse la bureaucratie bruxelloise, pardon de le dire comme ça, complètement mettre à côté le projet IRIS-Carré, qui aujourd'hui, on va dépenser de l'argent pour faire au mieux ce que Starlink sait faire aujourd'hui.
Non, mais ça ne sera pas au niveau de... Et quand tu discutes avec des spécialistes...
Il faut remettre à plat complètement ces projets et mettre des gens qui sont des industriels et qui sont capables de faire des grands paris.
Bon, écoutez.
Ça, c'est quand même une conclusion positive.
Positive.
Ah non, non, mais si on n'a pas un bilan, je pense, clairvoyant et sur la situation, on va jamais prendre les bonnes décisions. On va se murer dans nos illusions, les amis.
Paris, si tu attaques l'Europe contre-attaque.
Terrible cette blague.
Bon ben voilà.
J'espère qu'elle s'entendra pas au podcast.
On termine avec cette. Non, mais justement, ça sera la conclusion du podcast.
Super.
Évidemment. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à André Losgood Pietri. À très bientôt de Jedi. Merci aussi à Clément David, président de Théodo Cloud.
Avec plaisir.
Et Fred, on se retrouve demain.
Demain.
Voilà. Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.